Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour et bienvenue dans Au fil des pages, le rendez-vous littéraire de Canal Académie, avec un livre-événement dont nous parlons abondamment sur Canal Académie, puisque Damien Leguay, mon confrère, va également consacrer une émission à l'ouvrage de Jean Sévilla intitulé « Historiquement incorrect » aux éditions Fayard. Alors avec Damien Leguay, que vous connaissez bien puisqu'il collabore régulièrement à Canal Académie, on va voir l'aspect général de la méthodologie historique, et Jean Sévilla aura l'occasion de s'exprimer abondamment sur ce sujet. Quant à nous, on va plutôt développer certains aspects de cet ouvrage « Historiquement incorrect ». Bonjour Jean Sévilla.
Bonjour.
Je vous présente en deux mots, avec évidemment une certaine littérature que vous avez déjà accumulée sur le sujet historique. On se souvient d'historiquement correct, de moralement correct. Vous revenez avec le dernier volet d'une trilogie historiquement incorrect aux éditions Fayard. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à Figaro Magazine, journaliste, une passion pour l'histoire. Est-ce que vous êtes historien en soi, Jean Sévilla, au départ ?
Oui, au départ, j'avais plutôt une formation littéraire. J'ai fait des études de lettres et d'histoire, mais je n'ai poursuivi jusqu'au bout que mes études de lettres. Voilà. Alors, l'histoire, ça s'apprend aussi sur le terrain. Et par ailleurs, j'ai des travaux d'historien. Mes biographies, par exemple, n'ont jamais été contestées par aucun historien. Donc,
la reine Zita en particulier.
Oui, l'impératrice Zita.
L'impératrice.
Donc, voilà, c'est tout un débat. La coutume, et on peut se dire historien quand on est agrégé histoire. Ce n'est pas mon cas. Bon, mais je pense savoir beaucoup plus d'histoire que certains gens qui ont des titres pour cela. Voilà,
mais alors, je disais cela, j'en sais bien, parce que vos ouvrages en matière historique ont été bien accueillis par le monde des historiens, précisément.
Oui, le monde universitaire. Moi, j'ai beaucoup de courriers, beaucoup d'échanges avec des universitaires qui me regardent, non pas comme un éleur, enfin, ou du moins comme un de leurs pairs dans mon domaine, qui est celui de l'approche généraliste, un petit peu de synthèse, un peu médiatique, parce que je suis journaliste, c'est mon métier principal, de l'histoire.
Avec l'idée, bien sûr, de faire connaître l'histoire au plus grand monde, parce que là aussi, c'est le défi du monde universitaire.
Voilà, moi, je me considère comme un passeur. Je ne suis pas spécialiste, aucun historien n'est spécialiste de tous ceux dont il parle, par définition. Mais moi, je ne suis pas spécialiste de tous les sujets que j'aborde ici. J'ai mes spécialités avec mes travaux propres autour de l'Autriche et Habsbourg. Mais pour le reste, eh bien, je fais un travail de passeur, c'est-à-dire que je lis les spécialistes, je les consulte, je les interview éventuellement dans le cadre de mon activité de journaliste, et je fais écho à leurs travaux pour le grand public. Donc voilà, j'aime bien ce mot de passeur, j'essaye de faire passer un savoir pour un public cultivé, mais qui n'aurait pas le temps ou pas la vocation à lire les livres un peu savants, parfois un petit peu austères, dont je m'impose moi-même la lecture.
Ici même à Canal Académie, l'histoire est particulièrement appréciée, comme vous le savez. Alors on va passer en revue quelques aspects, quelques thèmes que vous abordez. Bien sûr, en 25 minutes, on ne pourra pas tous les étudier. Vous commencez par le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi, première partie. Ce que l'Occident médiéval doit aux Arabes, ce qu'il ne leur doit pas, c'est en écho à la controverse
autour de Sylvain Guggenheim.
Galilée, l'Église et la science, et là je vais vous en faire dire quelques mots, parce qu'avec l'Académie des sciences, le savoir scientifique, ici, cela trouve un écho particulier. La colonisation, la France est-elle coupable? Nous ne comprenons plus la Grande Guerre. La Seconde Guerre mondiale au prisme de la solution finale. Le titre est un rien provocateur quand même, Jean Sévilla, là. Hein. La Seconde Guerre mondiale au prisme de la solution finale.
Si vous le souhaitez.
Vous pourrez l'expliquer. Le Vatican contre Hitler. En fait, ça fait deux sujets en soi sur la Seconde Guerre mondiale. Le Vatican contre Hitler et la Seconde Guerre mondiale au prisme de la solution finale. Chrétiens et juifs à travers l'histoire. On peut considérer que c'est une extension aussi par rapport à la Seconde Guerre mondiale, mais plus vaste évidemment, puisque c'est à travers l'histoire. Et deux sujets qui font évidemment écho à des points d'actualité, l'identité nationale, l'identité française, la France et l'islam, une longue confrontation. Donc là, on voit aussi le réflexe du journaliste qui va puiser dans ce qui fait l'actualité, Jean Sévilla, ce qui n'est pas incompatible avec l'histoire.
Oui, oui, non, mais mon travail dans ce livre historiquement correct est le même que celui que j'avais poursuivi avec Historiquement correct en 2003. C'est de partir de la vision dominante de l'histoire, de la vulgate un peu médiatique, de ce que pense l'homme de la rue, parce que
on
l'a lui fait penser, de clichés, Et donc ça, c'est un réflexe de journaliste. En effet, je vais chercher les clichés, je vais chercher les idées qui sont de l'air du temps, on va dire. Et à partir de cela, je démonte ces idées toutes faites, ces clichés, ces lieux communs, au regard des travaux des spécialistes.
Alors, Jean Sévillat, justement, puisque vous parlez de clichés, j'en cite trois, les croisades, l'Inquisition, Galilée, l'Église constituée, vous avez employé le mot de passeur, un passeur de civilisation, s'il en est. Est-ce que l'on peut, sur Galilée, voir d'abord comment vous avez voulu attraper ce sujet? Qui était Galilée? C'est la première question que vous posez. Le sait-on seulement?
On le sait très bien parce que c'est un personnage tout à fait documenté. Nous avons énormément de renseignements sur lui. La bibliographie sur le sujet Galilée est abondante. Maintenant, en même temps, il y a beaucoup d'idées reçues sur Galilée. C'est un personnage qui est l'objet d'une certaine manipulation historique, d'une certaine mythologie depuis très longtemps, depuis le XVIIIe siècle, depuis les Lumières, depuis les philosophes.
C'est un personnage du XVIe déjà.
Voilà. Alors, pour l'homme de la rue, je le dis, c'est le début de mon chapitre, si on demandait à l'homme de la rue qui est Galilée, je pense que, j'ai pas fait l'essai, mais j'en suis certain. 4 personnes sur 5 dans la rue diraient c'est un savant du Moyen-Âge qui a été brûlé parce qu'il disait que la Terre tournait au soleil alors que l'Église prétendait le contraire. Bon, alors Galilée n'a pas vécu au Moyen-Âge mais même au XVIIe siècle, c'est un contemporain de Descartes et il n'a pas été brûlé, il est mort dans son lit. Il a en effet connu une sanction de par l'Église, de par l'Inquisition à l'époque où il y avait une justice à la fois civile et religieuse qui était l'Inquisition, en tout cas dans les États pontificaux, ce qui était le cas de Galilée, qui était un Italien qui vivait entre Rome, Florence. Mais Galilée n'a pas été condamné parce que il aurait prouvé l'héliocentrisme. D'abord, il n'a pas prouvé l'héliocentrisme, il a affirmé l'héliocentrisme, c'est différent. C'est-à-dire qu'il a affirmé, mais il avait raison, évidemment, que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse, mais il ne l'a jamais prouvé dans ce sens, il n'est jamais parvenu à avancer des preuves expérimentales.
C'est une déduction.
Oui, absolument. Et donc, il a été condamné parce qu'on lui demandait, en fait, de présenter l'héliocentrisme non pas comme une certitude, mais comme une hypothèse, dans la mesure où il ne pouvait pas le prouver. Or, c'est ce qu'il n'a pas fait parce qu'il était têtu. Le deuxième élément qui a contribué à sa condamnation, c'est que c'est un élément psychologique, mais l'histoire est aussi faite de ce genre de choses, c'est que c'est un homme qui était une tête de cochon, si vous me passez le terme, très très bagarreur, très querelleur, très haute idée de lui-même, très mauvais caractère, mauvais coucheur. Vous voyez. Donc, dès qu'il y avait une querelle, il envenimait et lui-même mettait d'une mauvaise foi un signe quand il faisait de la polémique, hein, très très violent. Et puis, il a utilisé les Écritures saintes, dans son propos, ce qui était une faute au regard de l'Église, qui demandait qu'on ne s'empare pas de l'Écriture pour tenter de faire des propositions scientifiques. Et donc, tous ces éléments accumulés vont aboutir, en effet, qu'il y a eu un procès contre lui, un procès d'inquisition, qui aboutira à sa condamnation en 1633, mais il sera condamné à une peine de prison, qui est une peine de prison tout à fait douce. En fait, il a été condamné, emprisonné chez lui, où il a continué à faire son travail de scientifique, à recevoir ses élèves et à écrire des livres et à les publier. Donc, ce sont des condamnations parfaitement pacifiques. Ce n'est pas la fatwa, ce ne sont pas les versets sataniques.
Mmh. Voilà. De l'époque contemporaine,
oui, tout
que
à
l'on
fait.
Connaît aujourd'hui.
Voilà, voilà. L'histoire Galilée, c'est une question qui touche à l'histoire de l'Église, mais aussi à l'histoire des sciences, à l'épistémologie, pour prendre un mot savant, mais que les auditeurs de Canal Academy connaissent, qui est celui de l'approche de la science de la science, en quelque sorte, de l'approche scientifique d'un sujet scientifique. Au fond, il a été reproché à Galilée de ne pas utiliser les bonnes méthodes pour illustrer la thèse qu'il voulait défendre, et en mélangeant le prouver,
l'hypothèse,
c'est ça l'objet de sa condamnation. Alors, dans l'histoire culturelle occidentale, c'est devenu une sorte de mythe. Les philosophes du XVIIIe siècle ont fait de Galilée une sorte de martyr de l'Église. Il aurait été victime de l'obscurantisme clérical. Alors, on s'aperçoit que ce n'est pas ce qui s'est passé dans la réalité. L'Église de l'époque était une grande puissance scientifique. Les grands scientifiques de l'époque, au XVIIe siècle, la plupart étaient des clercs, c'est-à-dire des prêtres, des religieux. Les jésuites possédaient des universités qui étaient de haut niveau scientifique. Donc, en réalité, c'est le type même de ce que j'appelle de l'historiquement correct, c'est-à-dire qu'on fait une utilisation politique et idéologique d'une histoire qui est réel, qui était d'une certaine manière une maladresse dans l'histoire de l'Église. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas non plus de dire que tout ça est normal. Il y a eu une erreur d'appréciation aggravée par le comportement de Galilée et par ses erreurs, indéniablement. Mais il y a aussi une erreur, alors c'est un peu compliqué d'entrer dans les détails.
Mais a-t-il été défendu par des hommes d'Église?
Oui, oui, il a été défendu par des hommes d'Église, y compris par un pape, le pape cardinal Barberini, qui était son ami personnel et qui sera élu pape sous le nom de Urbain VIII, aura essayé de le défendre jusqu'au bout. Et même, au moment de sa condamnation, d'une certaine manière, essaye d'arranger les choses le plus possible, parce qu'Urbain VIII avait compris que Galilée, malgré son mauvais caractère, était aussi et quand même une sorte de génie scientifique. Mais c'était un génie scientifique qu'il fallait, au fond, protéger de lui-même, de ses erreurs de méthode, de son mauvais caractère, de sa mauvaise foi. Mais donc, il a eu des protecteurs ecclésiastiques aussi.
Mais alors, Jean Sévillia, là, c'est un cas typique de remise en cause du système, parce que parfois, certains grands événements, si on prend la grande peste, ont pu provoquer des désastres épouvantables et pourtant n'ont pas fait évoluer nécessairement les mentalités. Et de petits événements, comme l'affaire Galilée en soi, ont pu faire évoluer les mentalités parce qu'on a remis en cause un paradigme à travers l'héliocentrisme du fait que Dieu était le souverain maître de l'univers et que ça relativisait du même coup la place de Dieu, donc la place de l'Église.
Oui, mais...
Donc il y avait un enjeu de pouvoir terrible.
Il y avait un enjeu de pouvoir, tout à fait, c'était un grand enjeu culturel. Mais je n'ai pas encore prononcé ce mot, j'aurais dû le faire d'ailleurs, mais enfin celui du chanoine Copernic, qui très longtemps avant Galilée a lui aussi affirmé l'héliocentrisme, affirmé que donc la Terre tourne autour du Soleil, et il l'avait fait, Copernic, sans avoir aucun ennui que ce soit avec les autorités ecclésiastiques. Ce qui prouve bien qu'on pouvait faire une grande découverte scientifique, avoir une grande conception astronomique, une grande conception de l'organisation du monde, sans entrer forcément en conflit avec l'Église.
Donc historiquement incorrect a commencé au XVIIIe déjà. On était dans la période moderne que l'on connaît aujourd'hui.
Oui,
de la fabrication d'un événement après
historiquement correct, selon la façon dont on inverse le jeu de mots, enfin, puisque c'est un jeu de mots réversible, donc en effet. Mais oui, 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 bien sûr, la fabrication idéologique, la manipulation de l'histoire à des fins idéologiques commence au XVIIIe siècle. Enfin, c'est très net avec l'anticléricalisme qui est souvent un antichristianisme chez certains philosophes. Eh bien, on commence à dresser une légende noire du passé de l'Église qu'on oppose souvent d'ailleurs au protestantisme qui aurait été plus
émancipé.
Plus émancipé, plus libéral. Mmh. Et donc, tout ce qui concerne la première colonisation de l'Amérique du Sud, la légende noire du massacre des Indiens par les Espagnols, ça date du 18e siècle. La légende noire de l'Inquisition, ça date du 18e siècle. La légende noire des guerres de religion, ça date du 18e siècle. Galilée, ça date du 18e siècle, oui. La grande naissance, oui, de cette manipulation de l'histoire, je pense, c'est au 18e siècle.
Mais Jean Sévillia, ça veut dire que personne n'avait écrit l'histoire auparavant?
Le père de l'histoire, on dit toujours que c'est Hérodote, mais entre Hérodote et la suite, il y a eu, au fond, une sorte de perte de mémoire. À partir pratiquement du haut Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, la science historique s'est en quelque sorte perdue.
On mélange... Ça reste un mystère quand même.
Oui, c'est un
aux
mystère.
Aux yeux de nos autres contemporains.
Oui, oui, c'est un mystère. La science historique s'est perdue. On mélange les personnages réels et les personnages de fiction. Le récit du passé est en réalité une sorte de chronique embellie, enjolivée. C'est une sorte d'histoire sainte, on raconte l'histoire du peuple de Dieu à travers le temps. Enfin, je veux dire, ça n'est pas scientifique et il faudra pratiquement la méthode expérimentale, la vraie science historique, celle qui avait été énoncée par Hérodote, donc 18 siècles avant, est revenue au 18e siècle avec Mabillon, les moines de Saint-Maur, qui ont retrouvé le sens de la pratique expérimentale de l'histoire.
Alors, Jean Sévillia, autre question que vous abordez, délicate, on va franchir les siècles. La Seconde Guerre mondiale au prisme de la solution finale. Tenez, on va en dire un mot, puis on dira un mot aussi de la Grande Guerre pour être à l'époque contemporaine. Là, c'est un sujet extrêmement délicat puisqu'aujourd'hui, il est encore d'actualité, ce sujet, et il s'invite régulièrement dans l'actualité à la faveur de tensions sur la mémoire, en particulier sur les mémoires communautaires. Là, vous commencez avec un ouvrage de Patrick Modiano, « La place de l'étoile ».
Oui, en 1968, dans la première édition de La Place de l'Étoile, le jeune Patrick Modiano, qui était tout à fait inconnu, avait un passage qu'il a rayé dans les éditions ultérieures avec un personnage qui dit « il n'y a pas eu que du malheur juif pendant la guerre, il y a aussi le malheur périgourdin, le malheur breton, etc. Voilà. » Aujourd'hui, c'est un type de plaisanterie qui, pour un peu goguenard, qui ne passe pas. Et d'ailleurs, Patrick Modiano, lui-même, en 1985, a rayé ce passage de son livre. Donc, aujourd'hui, en effet, il y a eu une sorte de déplacement de mémoire, déplacement de perception. Alors qu'en 1945, les Juifs eux-mêmes et les Juifs rescapés, au fond, n'isolaient pas leur sort de l'ensemble des victimes de la guerre et des victimes de la déportation. Dans les années 60-70, il y a une construction de mémoire juive, autour de cette tragédie qui a été évidemment la déportation et le génocide juif, et qui est devenue une sorte de lecture un peu obligatoire de la Seconde Guerre mondiale, en son sens qu'on aborde la Seconde Guerre mondiale à travers cet événement.
Cette mémoire particulière.
Cette mémoire particulière. Alors, qu'on me comprenne bien, je ne minimise en rien, je ne m'inscris pas du tout dans ce courant qui tendrait à considérer que la Shoah soit un événement parmi d'autres dans l'histoire. Bon, c'est une tragédie universelle, particulière au peuple juif, mais elle est universelle parce qu'elle touche au mal dans son essence, on est bien d'accord. Maintenant, si on veut donner une articulation historique, et c'est ce que je vais vous faire dans le chapitre, je vais vous montrer que cette tragédie particulière qui touche à l'universel parce qu'elle touche à l'essence même de l'humanité, on est d'accord, eh bien, s'incarne malgré tout dans un certain contexte. Et si on veut comprendre la Shoah, on ne peut pas considérer que la Shoah soit un événement métaphysique et survenu comme ça un jour par malheur sur la Terre. C'est un événement qui a des causes temporelles qu'il faut reconstituer. C'est ce que j'ai voulu faire dans ce chapitre. Il faut remonter à la Grande Guerre, 14-18, qui est une brutalisation des comportements qui habituaient les hommes à la violence et à la violence de masse. Le mécontentement allemand à la suite de la défaite 1918 qui va susciter du nationalisme allemand. Nationalisme allemand dans lequel Hitler se coule. Il est antisémite et il emmène les gens qui, au fond, un désir de revanche de l'Allemagne, y compris les Allemands, qui ne sont pas plus antisémites que cela, mais au fond, il va les entraîner avec eux parce qu'ils vont pas vouloir voir son antisémitisme, mais en voulant voir qu'il va porter une sorte de revanche pour leur pays. Montée du nazisme qui n'est pas contrecarré par les alliés, montée de Hitler qui avait en ses pions réoccupation de la Rhénanie, tout ça dans les 36, enfin, ce sont des choses bien connues. On n'oppose ni la France, ni l'Angleterre, au moment où elle le pouvait encore, n'oppose de véritables obstacles à au réarmement de l'Allemagne. Ensuite, la guerre. Hitler s'est bâti un système dictatorial à lui. Au départ, il cherche à éliminer les Juifs civiquement, c'est-à-dire à les chasser, en fait, à les pousser à l'exil en confisquant leurs biens. Et puis ensuite, à partir de 1941, la NAS se referme et commence véritablement la Shoah. Donc, la Seconde Guerre mondiale n'a pas éclaté à cause des Juifs, si vous voulez. On n'a pas fait la guerre pour les Juifs.
C'est une conséquence qui s'inscrit dans un contexte.
Voilà. C'est une conséquence qui s'inscrit dans un contexte. Voilà, c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce chapitre.
Mais est-ce qu'elle était une fin en soi qui était programmée ?
Dans l'esprit d'Hitler, oui, sûrement. C'est évident. Alors,
Au prisme de la solution finale, donc c'est quand même un décret en soi.
Oui, oui, ça a toujours fait partie de son projet. Alors, il a plus ou moins annoncé officiellement, selon les temps, parce que c'était un politique habile et il savait que tant qu'il était dans un système démocratique, il avait besoin des voix et puis même une certaine forme de reconnaissance internationale, il ne le clamait pas sur tous les toits. Mais dans son esprit, il était clair que son antisémitisme était d'ordre névrotique. Hein, et donc, la destruction des Juifs faisait partie de son plan, oui. Mais il a fallu une accumulation de circonstances, à la fois pour qu'il parvienne au pouvoir et pour qu'il puisse mettre son dessein criminel à exécution. Mais voilà, moi, ce que j'ai voulu montrer dans le chapitre, voilà, c'est que on peut pas traiter la Shoah sur un plan historique comme un isolat. C'est pas quelque chose, c'est pas un événement métaphysique qui est survenu.
Vous dites qu'il y a une religion séculière de la Shoah.
Aujourd'hui, oui, il y a une utilisation de la mémoire qui a été faite. L'expression n'est pas de moi, d'ailleurs, cette expression.
Paul Thibault.
Oui, Paul Thibault, qui est le rédacteur en chef d'Esprit, utilisait cette expression. En effet, il y a eu tout un développement. Dans les années 80-90, c'était extrêmement fort au moment de tous ces grands...
Assez tardif, en fait.
Oui, mais c'est en partie une reconstruction mémorielle. Mmh. C'est ça le paradoxe, c'est que les Juifs et les Juifs survivants eux-mêmes n'avaient pas cette perception ni ce regard-là dans l'après-guerre. Dans les années 45-50, on n'avait pas ce regard-là. Les Juifs eux-mêmes n'avaient pas ce regard-là sur ce qu'ils avaient subi.
Jean Sévillard, vous dites « une vulgate trompeuse », c'est l'un des paragraphes. Aujourd'hui, l'historiographie s'invente les ouvrages de vulgarisation. La télévision, les commémorations officielles communient dans la même vision des années d'occupation. Il s'est constitué dans ce domaine un schéma de pensée préfabriqué. Les Français, pendant la guerre, auraient été majoritairement attentistes parce qu'ils s'accommodaient de la présence des Allemands. Ce n'est pas vrai, ça ?
Il y a beaucoup de travaux d'historiens qui sont effectués. Il y a une histoire de l'histoire, en quelque sorte. Dans l'après-guerre, on exalte la résistance. On oublie que les trois quarts des Français ont été pétainistes, en tout cas, jusqu'en 40, 41, 42. Alors, après-guerre, dans les 50, 60, sous la Ve République encore plus, de Gaulle étant président, on exalte la résistance et on oublie ce qui s'est passé. Puis alors, à partir des années 70, il y a une sorte de renversement complet, réveil de la mémoire juive, mais aussi, après la mort de Gaulle, on se met à démolir toute la légende de la résistance. Et alors, c'est l'inverse. On ne veut plus voir dans la France que des collaborateurs, des gens qui auraient dénoncé les juifs, etc. Une sorte de roman noir de ce pays qui est totalement inversé. Les travaux d'historiens, et je cite notamment les travaux de Pierre Laborie, sont des travaux plus fins qui montrent que, bien d'abord, il faut segmenter, il faut chronologiser. Telle opinion n'est pas le même en 1940. À l'été 40, après la défaite, quand Pétain paraît une sorte de sauveur dans un pays qui s'était effondré, l'état de l'opinion n'est pas le même. Ensuite, en 42, quand Pétain n'a plus de pouvoir du tout, que les Allemands occupent toute la zone libre, qu'il n'y a plus la flotte, qui s'est sabordée à Toulon, etc. Enfin, le peu d'éléments de souveraineté qui restaient à Vichy disparaissent. Donc, le regard de l'opinion évolue, je veux dire. Mais donc, il faut reconstituer tous ces éléments-là. L'histoire, c'est complexe. Et donc, il faut poser sur la table, si on veut reconstituer l'état de l'opinion vis-à-vis de Vichy, bien tous ces éléments. Mais c'est la même chose pour la résistance. Je veux dire, l'exaltation de la résistance à une époque était tout à fait...
Rétrospectivement démesurée.
Le crédit qu'on lui a apporté. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber en sens inverse. Mais ce qui est certain, c'est qu'on s'aperçoit que, globalement, l'opinion était hostile et de plus en plus hostile aux Allemands et de plus en plus hostile à Vichy. L'hostilité à Vichy a monté au fur et à mesure, en gros, que le pouvoir de gouvernement de Vichy semblait de plus en plus prisonnier des Allemands. C'est-à-dire que Vichy, en fond, a perdu le crédit qui lui était donné au début de la guerre d'être une sorte de protection à l'égard des Français. On peut discuter si cette protection était illusoire ou pas. On peut dire, et d'ailleurs, avec le recul du temps, qu'elle l'a été, la preuve. Mais enfin, l'évolution de l'opinion s'est faite sur ce critère-là. Ce qui montre que l'opinion collaborationniste était très, très minoritaire. Elle a existé, mais elle était très minoritaire. Et l'attentisme global de l'opinion qu'on incrimine souvent est un peu plus complexe. On s'aperçoit que les gens n'avaient pas forcément les moyens de résister, c'est évident. Mais qu'il y avait un sentiment anti-allemand qui était majoritaire en France. Ça, c'est une certitude.
Alors, sentiment anti-allemand, est-ce que l'on peut revenir légèrement en arrière, justement, à la matrice de la Seconde Guerre, la première, quand vous dites « nous ne comprenons plus la Première Guerre mondiale », en quoi avons-nous changé complètement de paysage, Jean Sévillard ?
Bah écoutez, nous vivons au début du XXIe siècle dans une Europe qui est une Europe unie, même s'il y a des problèmes entre pays européens éventuellement, et même s'il y a une crise en ce moment de l'euro, etc., du modèle européen, mais enfin, globalement, on conçoit l'Europe comme un ensemble. Ce n'était pas le cas autrefois. Et donc, ce qui a changé, c'est que ça paraissait évident pour les Français de faire la guerre aux Allemands et aux Allemands de faire la guerre aux Français. Aujourd'hui, on n'en est pas là et Dieu merci. Donc, nous ne comprenons plus le patriotisme de l'époque qui avait été très fortement intériorisé. Nous vivons par ailleurs dans une société qui est hyper individualiste où chacun défend ses droits. J'ai le droit de, j'ai le droit à. Comment pouvaient fonctionner mentalement ces hommes qui, c'était leur expression à l'époque, faisaient leur devoir. Donc on ne comprend plus.
Mais joyeusement en plus.
Oui, joyeusement, non.
Non.
Joyeusement, non, ça c'est un petit peu un mythe. On se perçoit qu'en 1914, les hommes sont partis plutôt résignés que joyeux. À fleur au fusil, personne ne perd à la guerre à fleur au fusil. Mais enfin, ils ont consenti à la guerre. Ils ont fait la guerre.
Enfin, ils pensaient gagner rapidement.
Voilà. Et ils pensaient, mais ça c'est certain, ils sont partis à l'été 14 résignés, mais consentants, mais avec cette illusion qu'ils seraient tous rentrés chez eux pour Noël. Nul ne s'attendait à ce que ce conflit dure 4 années et soit si coûteux en hommes, évidemment.
Aujourd'hui, la Première Guerre mondiale connaît un certain regain d'intérêt.
Elle connaît un grand regain d'intérêt, mais je pense qu'il y a...
Comment l'expliquez-vous ?
Parce que ça nous fascine précisément de comprendre comment comprendre que des hommes aient accepté pendant des mois et des années de vivre dans des trous sous les bombardements, avec la faim, la peur, le froid, la boue, les rats, les poux. Nous sommes dans une société du confort, l'électricité, la douche, l'eau chaude.
C'est l'inverse de ce que l'on vit aujourd'hui.
C'est l'inverse de ce que l'on vit aujourd'hui. Ce sont nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents selon l'âge que l'on a. C'est pas si ancien, si vous voulez. Et toute la vieille population française a des ancêtres qui ont fait 14-18. Et ça paraît mystérieux. C'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde, un autre monde géopolitique, un autre univers mental. Et je pense que la fascination vient de là. Mais c'est tellement différent, on a tendance à projeter. C'est vrai au cinéma, c'est vrai dans la bande dessinée, c'est vrai dans le roman. On prête aux combattants de 14-18 des mentalités qui sont celles d'aujourd'hui. Contestation de l'ordre militaire, refus d'obéissance. Ces phénomènes-là ont pu exister, mais on s'aperçoit qu'ils étaient marginaux pendant la guerre de 14-18.
Jean-Sébillard, est-ce que l'histoire est un pousse au crime, dans la mesure où ces générations qui ont fait la guerre ont été aussi élevées dans une vision de l'histoire, en particulier d'une opposition face à l'Allemagne, qui peut paraître aujourd'hui, c'est vrai, un peu absurde, en tout cas stérile. Trois guerres successives contre l'Allemagne, ça veut dire que le système scolaire a élevé aussi les générations de Français depuis les années 1860, par exemple, pour la guerre de 70, dans cette haine de l'Allemagne. Donc il y a bien eu un enseignement de l'histoire et une caricature de l'autre.
Ah, c'est certain. Quand on regarde les enseignements de l'école républicaine, la vie, etc., l'allemand, c'est l'homme au casque à pointe. Il y a une incompréhension mutuelle très très forte. Le patriotisme avait été, qui est en soi une belle vertu, mais était devenu quelque chose d'extrêmement durci, caricaturant l'autre, en effet. Et c'est un des éléments qui a poussé au fait que la guerre ait été si dure. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse rétrospectivement condamner non plus le patriotisme, on peut condamner cette vision qui s'est mise en place.
Est-ce que l'histoire est toujours otage de l'idéologie et otage d'un pouvoir ou d'une mentalité qui veut la mettre à son service,
oui,
y compris aujourd'hui?
Oui, c'est le cas aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas d'une certaine manière. On essaie toujours de faire parler le passé, de le faire parler pour le présent en réalité. C'est-à-dire, on veut lui faire délivrer un message qui est un message pour aujourd'hui.
Donc ne pas enseigner l'histoire, finalement, c'est source de paix.
Non, là, vous...
J'en sais bien.
Vous résisterez à votre provocation. Non, non, il faut connaître l'histoire, mais simplement, il faut en avoir une vision qui soit une vision réelle, raisonnée. Il faut mettre tous les éléments sur la table. Il faut connaître tous les faits. Il faut n'avoir pas de jugement sommaire, manichéen, n'avoir pas de jugement anachronique. Et au contraire, moi, je crois que la connaissance de l'histoire, parce que beaucoup de sujets qui sont aujourd'hui matière à contestation, à polémique, si on les travaille de près, eh bien, on comprend ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup de polémiques qui peuvent être désamorcées si on a un regard le plus proche possible du réel sur les événements.
L'honnêteté intellectuelle étant la clé.
Voilà.
Merci Jean Sévilla. Anachronisme, manichéisme, esprit réducteur, c'est une partie des aspects que vous développerez aussi avec Damien Leguet dans une autre émission consacrée à Historiquement Incorrect qui portera sur la méthode historique. C'est aux éditions Fayard, Historiquement Incorrect, Jean Sévilla, qui aborde, là on a parlé de Galilée, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a aussi bien d'autres aspects, des aspects plus contemporains avec l'islam et les identités, et puis d'autres sujets qui sont liés, Jean Sévilla, à la colonisation par exemple, ou à la controverse sur Sylvain Guggenheim, ce que l'Occident médiéval doit aux Arabes, ce qu'il ne leur doit pas, ou encore chrétiens et juifs à travers l'histoire, le Vatican contre Hitler, c'est aussi l'un des chapitres que vous abordez dans Historiquement Incorrect. Merci beaucoup d'être venu à Canal Académie.
Merci.